Rebecca, tu reçois maintenant l'historien Marc Berger pour parler du tournant majeur qu'a été l'année 1945. Bonjour Marc Berger.
Bonjour.
Bonjour à vous. Alors Marc Berger, on le rappelle, vous êtes historien et professeur en histoire contemporaine à l'Université Rennes 2. On vous accueille aujourd'hui dans nos studios pour aborder un événement majeur de l'histoire, la Seconde Guerre mondiale et plus particulièrement l'année 1945. En quoi ça a été une année fondatrice dans notre histoire. Vous avez pu développer ce thème-là justement lors d'une conférence dans le cadre des rencontres d'histoire qui ont eu lieu la semaine dernière, donc à partir de vendredi. Et donc votre conférence était vendredi justement. Peut-être qu'on peut rapidement resituer un peu la Seconde Guerre mondiale. C'est un conflit qui débute donc en 1939 et qui devient très vite mondial. Avec donc la tentative d'annexion des Sudètes, puis Hitler qui envahit la Pologne en 1939, qui marque l'entrée en guerre du Royaume-Uni et de la France le 3 septembre 1939 justement. Donc on a d'un côté l'axe avec l'Italie, l'Allemagne et le Japon, et de l'autre côté donc les Alliés, l'URSS, les USA, la Grande-Bretagne, on verra aussi après la France également. Et le conflit donc s'achève en 1945, année sur laquelle on va vraiment se concentrer aujourd'hui. Alors peut-être qu'on peut revenir ensemble sur l'expression 1945 année zéro. D'où ça vient? Qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, vous avez tout à fait raison. 1945 année zéro, c'est une expression qui n'est pas mienne, hein, bien évidemment. C'est une expression qu'on retrouve beaucoup aussi dans les essais historiques, dans les documents pédagogiques, y compris aussi dans la grande presse. C'est une expression qui naît immédiatement après la guerre, qui est une expression d'ailleurs qui est d'abord appliquée à l'heure. Initialement, on parle de l'heure zéro, et c'est d'abord une expression qui est allemande. On parle de la Stundenuhr, l'heure zéro en allemand, pour une raison assez simple d'ailleurs. C'est tout simplement donc l'heure de signature de la capitulation allemande, le 8 mai 1945, à 23h01 heure de Berlin, mais 0h01 heure de Moscou. Et dès le lendemain, dans la presse, y compris française d'ailleurs, on insiste sur cette heure zéro qui marque la fin de la guerre et en même temps le début d'autre chose. Et comment est-on passé de l'heure à l'année? Eh bien là, c'est grâce au cinéma. Il se trouve que c'est finalement le film de Roberto Rossellini, Allemagne année zéro, tourné à Berlin en 1947 et diffusé ensuite dans toute l'Europe avec un grand succès en 1948, qui a progressivement installé l'expression donc année 1945, enfin 1945 année zéro. Donc c'est une expression, vous voyez, à l'origine donc appliquée à l'heure et plutôt allemande, et qui progressivement s'applique à l'année et s'européanise grâce au succès du film de Roberto Rossellini, Allemagne année zéro.
D'accord. Et on le sait, cette année 1945, ça achève la Seconde Guerre mondiale et ça marque aussi un pas qui était jamais franchi auparavant dans d'autres conflits. Quel a été le bilan justement en 1945 de cette guerre?
De toute façon, 1945 traduit, année zéro, traduit d'abord un sentiment de chaos, d'effondrement, de dévastation, faut bien reconnaître. Et les images qui sont le plus souvent associées d'ailleurs à l'image 1945 année zéro, c'est des ruines. C'est souvent donc des paysages effectivement de destruction matérielle, avec souvent d'ailleurs comme personnages principaux des femmes et des enfants parmi ces ruines, témoignant effectivement donc de l'état un petit peu du jour d'après, si je puis dire, du jour d'après la guerre. Et de ce point de vue-là, vous avez raison, c'est le bilan de la Seconde Guerre mondiale en Europe est à proprement parler stratosphérique. Il l'est d'un point de vue humain, plus de 50 millions de morts, un bilan 4 à 5 fois supérieur à celui de la Grande Guerre. C'est aussi des populations civiles qui sont beaucoup plus touchées que pendant la Grande Guerre, et quasiment à parité, même dans certains pays, il y a plus de civils touchés que de militaires. Et puis, bien évidemment, c'est des dévastations matérielles, mais plus encore, c'est l'année 1945 est aussi l'année de la découverte, comme le dit notre collègue Anne Vuorka, la découverte des camps, la découverte aussi du génocide, qu'on n'appelle pas encore Shoah. Et donc là aussi, comme Annette Vorka, une très très belle expression, enfin une expression, je veux dire, elle est plus forte que belle, si je puis dire, mais pour évoquer la découverte des camps en 1945, et dont on sait que la presse, jusqu'à la presse quotidienne régionale locale, hein, le Ouest de France par exemple, ça en a parlé beaucoup, parle d'un moment donc d'effraction généralisée de l'horreur. Et puis il ne faut pas quand même oublier aussi que 1945, c'est aussi l'année de l'apocalypse nucléaire. Car de fait, pour hâter la fin de la guerre sur le front d'Extrême-Orient, les Alliés, les Américains entre autres, notamment, usent à deux reprises, le 6 et le 9 août 1945, de l'arme nucléaire. Et c'est vrai que même dans le camp des vainqueurs, le recours à l'arme nucléaire interroge profondément sur justement l'humanité, le devenir de la civilisation, des gens comme Albert Camus par exemple, et même le premier ministre anglais, Attlee, s'interroge et se demande si on n'a pas mis le doigt sur quelque chose qui, s'il n'est pas maîtrisé, pourrait à terme mettre en péril la civilisation en son ensemble. Donc effectivement, 1945, c'est un peu la tabula rasa, quoi, la table rase, donc, en raison de ce bilan tout à fait donc, paroxystique. C'est une véritable catastrophe, puisque c'était effectivement le thème des rencontres d'histoire, au sens où c'est un ébranlement, puisque c'est le sens, vous savez, étymologique de la catastrophe, en grec, c'est ébranlement, donc basculement. Donc là, on a clairement cette impression.
Mmh. Et notamment, c'était la première fois dans l'histoire que l'arme atomique était utilisée aussi.
Tout à fait.
Vous qualifiez justement cette Seconde Guerre mondiale et cette année 1945 d'année vraiment fondatrice. En quoi ça a marqué un tournant aussi dans l'histoire de l'humanité ?
Ben c'est tout le paradoxe de cette année. C'est ce que j'expliquais, parce que c'était important de préciser aussi que cette année, cette séance, donc 1945, année zéro, proposée dans le cadre des rencontres d'histoire, a été proposée et pensée pour les lycéens. Puisque de fait, nos rencontres d'histoire qui se déroulent toujours sur 3 jours, du vendredi au dimanche, il y a toujours le vendredi après-midi qui est réservé plus spécifiquement au public lycéen. Et donc voilà, comme ils travaillent beaucoup sur cette question notamment de la guerre, mais aussi de la gestion et la mémoire des traumatismes, cette séance leur était, si je puis dire, donc dédiée. Et c'est ce que je leur expliquais, c'est que c'est l'année 1945, c'est autant un crépuscule qu'une aube. Et c'est à la fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avant d'entrer en studio, hein, c'est de ce point de vue-là, les chrononymes, les noms d'époque ont du sens. On dit, curieusement, pour cette époque, on dit année zéro, on ne dit pas an 1. Or, il y a des périodes, on dit bien l'an 1 de la République, il y a des périodes où et pourtant, ça a été les deux à la fois. Car de fait, 1945 marque aussi la création de l'ONU, marque aussi, vous l'avez dit vous-même, l'émergence effectivement de deux blocs, et donc de deux grandes puissances, et paradoxalement ou corollairement l'effacement relatif de l'Europe, hein, ou le déclin relatif de l'Europe, ou l'éclipse en tout cas de l'Europe. C'est aussi, ça commence à bouger dans les colonies, on comprend bien en 1945 que le temps de la colonisation est révolu, hein. Ça bouge en 1945 en Indonésie, en Indochine, en Algérie. Donc on voit bien, il y a toute une série donc d'éléments. C'est aussi le début quand même et les premières bases d'une certaine justice pénale internationale. On l'oublie souvent, mais aujourd'hui on a la CPI, c'est vrai, mais il y a eu le tribunal de Nuremberg. Il y a la création d'un certain nombre de crimes internationaux à portée universelle qui sont encore aujourd'hui qui forment aujourd'hui les bases d'une jurisprudence importante, hein, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre. Il faudra pour le génocide attendre encore un petit peu, il sera défini juridiquement qu'un peu plus tard, même s'il est traité dans le cadre des crimes contre l'humanité, dans le cas du tribunal donc, de Nuremberg. Donc effectivement, on a clairement aussi, et c'est d'ailleurs bien légitime, les populations étant dans un état de sidération et de chaos total, il y a la volonté aussi de se projeter dans ce monde nouveau qui s'ouvre. C'est aussi quand même le retour à la démocratie pour toute une série de pays, en tout cas c'est net en Europe occidentale, c'est le début de l'État-providence. Donc on voit bien qu'il y a toute une... c'est clairement donc la conférence de San Francisco de juin 1945 qui voit la naissance de l'ONU justement parle de l'entrée dans une ère nouvelle. Donc vous voyez, c'est tout le paradoxe. À la fois on est au fond du trou, vous pouvez me permettre cette expression un peu triviale, et en même temps bien évidemment on veut construire un monde nouveau et si possible meilleur et plus pacifié.
Et ça mènera justement ensuite à 30 années, enfin on parle de 30 glorieuses justement après cette reconstruction.
Qui est une autre expression, un autre chrononyme qu'il faudrait questionner, puisque on sait bien qu'effectivement l'expression est valide pour partie d'un point de vue macroéconomique, encore que, mais mériterait d'être discutée, et est d'ailleurs beaucoup, beaucoup discutée, et dans sa temporalité, puisque de fait on peut parler parfois plutôt de 20 glorieuses, il y a une part de reconstruction qui suit notamment immédiatement la Seconde Guerre mondiale. Et puis on sait bien aussi que si on déchant à l'échelle des individus ou de certaines catégories sociales ou de certains secteurs d'activité, l'expression mériterait parfois d'être relativisée, même si c'est une période plutôt de croissance et de prospérité, on est bien d'accord. Mais en tout cas, voilà, votre remarque est tout à fait, de ce point de vue-là, amusante, puisque de fait, c'est tout l'objet d'ailleurs d'un livre qui a été publié par un de nos collègues, à qui ça me permet de rendre hommage, puisqu'il a disparu brutalement il y a peu, Dominique Khalifa, qui avait donc dirigé un ouvrage tout à fait remarquable sur les noms d'époque. Donc justement, les 30 Glorieuses, la Restauration, les années de plomb en Italie, l'année zéro fait partie de... Voilà, il y a toute une série d'expressions qu'on utilise comme ça, qui ont été créées, forgées à des moments donnés, et qu'il est souvent intéressant de questionner justement pour voir la réalité, mais aussi les limites des réalités que recouvrent ces expressions.
Et pour revenir aussi sur le travail des historiens et historiennes quant à cette Seconde Guerre mondiale, peut-être qu'on peut aborder aussi le rôle de la France, notamment dans le génocide juif. Quelle était la part réelle des Français qui étaient neutres peut-être, qui étaient résistants, qui étaient...
Ah, c'est compliqué, c'est un peu... La vision est un peu peut-être, je ne vais pas dire binaire, mais c'est plus compliqué que cela. Alors, de fait, la France donc, a une part de responsabilité, notamment dans la persécution donc, des Juifs et la ségrégation des Juifs. Donc, dans un premier temps, les premières lois juives sont effectivement donc, adoptées à l'initiative du gouvernement français. Ensuite, dans le cadre de la collaboration d'État, l'État français, le régime de Vichy, s'est rendu complice, effectivement, de la réalisation de l'accomplissement donc, de la Shoah. Ça ne fait aucun doute. Et de ce point de vue-là, effectivement, l'année 1945, à l'échelle un petit peu de ce qui se passe en Allemagne avec l'expression de la Stunde Null de l'année zéro, c'est sûr que la France, voilà, il y a aussi cette même volonté de tourner la page d'une période effectivement extrêmement sombre et lourde d'un point de vue mémoriel et de se projeter vers quelque chose de nouveau, en oubliant peut-être les responsabilités du passé. Donc, de fait, on peut penser qu'en France, qu'on a longtemps appelé plutôt le mythe résistentialiste, hein, qui est un peu l'équivalent finalement de la Stunde Null pour les Allemands, était une façon un peu de, pour reprendre l'expression de Konrad Adenauer, de tirer un trait sur le passé, sans se poser trop de questions dans un premier temps sur les responsabilités à l'égard de ce propre, individuel à l'égard de ce propre passé. Ça reviendra plus tard, 10, 20, 30, 40 ans plus tard.
Et justement, c'est le 16 juillet 95 que Jacques Chirac reconnaît cette responsabilité de la France dans le génocide juif. Comment expliquer qu'il y a eu justement autant de retard ?
Bah, d'abord parce qu'il faut reconnaître que qu'effectivement la question de la Shoah, enfin qu'on n'appelait pas d'ailleurs Shoah la sortie de la guerre, on parle de génocide, hein, c'est l'expression d'abord génocide qui s'impose, ensuite on parle davantage d'Holocauste à compter des années 70, et c'est vraiment à compter des années 80 qu'on parle davantage qu'on utilise davantage l'expression Shoah, et c'est d'ailleurs lié pour large partie au succès rencontré par le film de Lanzmann qui porte le même nom. Donc ça c'est pour là aussi les différentes expressions. Bah, il faut aussi tout simplement reconnaître que dans un premier temps, la question du génocide ou de la Shoah n'a pas eu toujours la même centralité ni dans l'opinion ni dans la mémoire qu'elle peut avoir aujourd'hui. Il a fallu clairement attendre les années 70-80 pour que on assiste à un véritable réveil de la mémoire juive de ce point de vue-là. Donc, et comme dans le même temps effectivement la question de l'historiographie et la mémoire de Vichy a suivi aussi une voie un petit peu, alors, un peu parallèle, ou en tout cas similaire, pas complètement parallèle, mais similaire, puisque là aussi, c'est très souvent, donc, au moment de la révolution paxtonienne, donc, à compter des années 70, début des 70, que on met en avant véritablement la responsabilité du gouvernement de Vichy, et surtout l'autonomie du gouvernement de Vichy dans toute une série de secteurs, et donc sa responsabilité première dans la collaboration d'État. Tout cela fait qu'effectivement, le cheminement mémoriel a pris du temps et a abouti effectivement à cette reconnaissance tardive que vous évoquez donc de 1995.
Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des zones d'ombre un peu qui n'ont pas été tout à fait élucidées justement dans cette question de la mémoire
Non, l'historien que je suis vous dirait qu'il n'y a pas de, tabou, parce que c'est vrai, je pense qu'il n'y en a objectivement pas, pour les historiens en tout cas. Donc après, il peut toujours y avoir des sujets nouveaux ici ou là qui se... Mais je pense sincèrement qu'il n'y a pas de, je dirais pas de tabou, de zone d'ombre particulière ou qui serait sciemment entretenue. Donc ce qui est un petit peu différent. Mais bien sûr, il y a toujours des nouveaux sujets ou des nouvelles thématiques qui sont explorées.
Et quelle est la lecture actuelle de l'expression 1945 année zéro ? Peut-être qu'elle a évolué aussi
Oui, elle a évolué. Elle a évolué d'abord parce qu'effectivement, elle a été assez vite contestée parce que de fait elle a été utilisée beaucoup. C'est un mythe, et comme beaucoup de mythes, c'est un mythe utile. Donc, et de fait utilisée notamment dans le contexte allemand sous Adenauer, elle permettait à la fois de passer l'éponge sans vraiment se poser la question de des responsabilités individuelles dans la catastrophe. Et donc elle a été contestée en Allemagne, notamment par la génération des années 68 et notamment à gauche et par la jeune génération qui estimait qu'effectivement toute la lumière n'avait pas été faite sur le passé et sur les continuités entre les élites, notamment les élites de la RFA et les élites du nazisme. Donc elle a été contestée immédiatement pour cette raison-là. Et puis surtout elle a été nuancée depuis parce que de fait c'est un tournant 1945, mais un tournant partiel. Parce que quand on dit année zéro, oui, c'est voilà, il y a bien des choses qui sont valables pour l'Europe occidentale, mais par exemple pour l'Europe orientale, Henri Rousseau observe à juste titre que l'année 1945 a marqué le début d'un nouvel asservissement qui finalement a duré plusieurs décennies aussi. Donc, puisqu'ils sont passés d'une occupation finalement à une autre forme d'occupation avec la mainmise de l'URSS sur le bloc de l'Est. Donc il y a toutes ces raisons-là. Et puis surtout, il y a un certain nombre d'historiens, notamment l'un des plus, je pense, qui est allé le plus pertinent dans le domaine, s'appelle Tony Jute, qui montre que 1945 a marqué la fin d'une guerre, mais pas la fin de la guerre, parce que très vite, on est entré effectivement dans la guerre froide, et qu'il faudrait plutôt lire la période de post-1945, et c'est ce qu'il fait, lui, en donnant, c'est même le titre qu'il donne finalement à son ouvrage, Post-War, donc l'après-guerre. C'est-à-dire que pour lui, il considère que 1945 a ouvert sur un long après-guerre, qui ne s'est terminé qu'en 1989-1991, au moment de la chute du mur de Berlin et la disparition des deux blocs. Donc, vous voyez, c'est une autre relecture, effectivement, qui nuance. Ça reste un jalon incontournable, mais sans doute partiel, et peut-être un peu trop optimiste, et qui est une lecture peut-être un peu trop, comme souvent, occidentale de l'événement.
D'accord, bah écoutez, merci beaucoup. Votre conférence de vendredi est en ligne. Tout le monde peut la consulter si jamais on a besoin de plus d'informations.
Tout à fait. Ça a été capté à la fois par les Champs Libres et par le CREA donc de Rennes 2. Et donc, c'est d'ores et déjà en ligne, je pense, sur le site des Champs Libres. Je ne pourrais pas l'assurer, mais en tout cas, sur le site de Rennes 2 et notamment sur l'ERDU, de manière tout à fait certaine.
D'accord. Bah écoutez, on ira voir ça. On vous invite toutes et tous à également aller jeter un coup d'œil pour approfondir ce sujet passionnant. Merci à vous,
Marc Berger. Merci de votre invitation, surtout.
Merci.
Merci, Marc Berger. Et merci à toi, Rebecca.